VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est 19h30 en temps universel. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 9 août 2017. John Lydon en direct du studio 9 de VOA Afrique à Washington. Au sommaire ce soir, présidentielle au Kenya, Uhuru Kenyatta en avance dans les résultats prévisoires. Raila Odinga parle d'une élection manipulée. En Afrique du Sud, après l'échec du Parlement, l'opposition compte désormais sur la justice pour faire tomber Jacob Zuma. En Israël, le premier ministre Benjamin Netanyahou dénonce une tentative de putsch alors qu'il est visé par des enquêtes judiciaires. Ici aux États-Unis, Donald Trump hausse le ton contre la Corée du Nord en évoquant la puissance de l'arsenal nucléaire américain. Et puis nous retrouverons Nicolas Pineau pour les sports et Kiabadou pour la Minute Éco. Mais tout d'abord, le journal. Bonsoir à tous. Au Kenya, le président sortant Uhuru Kenyatta est toujours largement en tête après la publication de plus de 95% des bureaux de vote. Son adversaire Raila Odinga rejette ces résultats alors que deux manifestants ont été tués à Nairobi. Abdourahman Dia.
L'opposition parle de résultats manipulés par piratage informatique alors que la tension est palpable dans ses bastions. La police a tiré des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines de manifestants qui avaient érigé des barricades et brûlé des pneus dans un quartier de la ville de Kisumu, le fief de Raila Odinga dans l'ouest. Dans le bidonville de Matare à Nairobi, la police a abattu deux manifestants qui avaient érigé des barricades. Selon la commission électorale, le président Uhuru Kenyatta a obtenu 54,36% des suffrages contre 44,67% pour Raila Odinga sur un total de 14,4 millions de votes comptabilisés. Ce dernier parle de fraude d'une gravité monumentale. Il avait aussi contesté ses défaites en 2007-2013. Il a néanmoins appelé les Kenyans au calme avant d'ajouter « Je ne contrôle pas le peuple ». Le président de la commission électorale a qualifié l'élection de libre et juste et souligné que les résultats jusque-là publiés en ligne sur la base de transmission électronique depuis les bureaux de vote ne sont pas définitifs.
La commission électorale du Rwanda a confirmé la victoire du président Paul Kagame à l'élection du 4 août avec un score sans appel de 98,79% des voix. Le président sortant améliore ainsi légèrement le résultat préliminaire qui était de 98,63% des suffrages. L'opposant Franck Habineza et le candidat indépendant Philippe Mbaimana ont obtenu respectivement 0,48% et 0,73% des votes. Selon la commission électorale, le taux de participation s'est élevé à 96,42% des 6,9 millions d'électeurs inscrits. Les activités ont repris timidement à Kinshasa pour la deuxième et dernière journée de l'opération Ville morte, organisée par l'opposition en République démocratique du Congo. L'opposition a qualifié de réussite totale ces deux jours de mobilisation contre le président Joseph Kabila, tandis que le pouvoir a stigmatisé un coup dur à la fragile économie. L'opposition prévoit des réunions publiques le 20 août, puis un appel à la désobéissance civile à partir du 1er octobre pour obtenir la publication d'un calendrier électoral, autant pour moi, des élections et le départ du président Joseph Kabila. Toujours en RDC, l'ONU a regretté mercredi les perturbations qui ont touché les réseaux sociaux du pays à la demande des autorités pendant les deux journées ville morte organisées par l'opposition depuis mardi. La limitation à l'accès à l'information est toujours un signe négatif pour les libertés publiques et individuelles, a déclaré Fabienne Pompé, la porte-parole de la mission de l'ONU à RDC. Les réseaux sociaux étaient encore partiellement touchés ce mercredi matin. Six personnes faisaient partie d'un groupe de volontaires de la Croix-Rouge centrafricaine et ont été tuées le 3 août dans de violents combats à Gambo dans le sud de la Centrafrique, selon un nouveau bilan communiqué par le Comité international de la Croix-Rouge. Un haut responsable des Nations Unies a alerté hier sur des signes avant-coureurs de génocide. Le pape François a dénoncé mercredi les récentes attaques contre des communautés chrétiennes au Nigeria et en Centrafrique, appelant à une fin de la haine lors de son audience publique devant des fidèles au Vatican. La fièvre de Lassa, une dangereuse fièvre hémorragique, a fait 2 morts à Lagos et 100 personnes ont été placées en observation pour tenter de contrer une épidémie dans la mégapole nigériane de 20 millions d'habitants, ont déclaré mercredi les autorités. Le 16e forum de la GUA, loi américaine sur la croissance et les possibilités économiques en Afrique, se poursuit à Lomé au Togo, en présence des représentants des 38 pays subsahariens éligibles et d'hommes d'affaires américains. Nous y reviendrons en partie magazine de ce journal. Au Sénégal, 2 opposants actifs sur les réseaux sociaux, dont la chanteuse Ami Kolé Dieng, ont été inculpés et placés en détention préventive pour offense au chef de l'État et diffusion de fausses nouvelles. Le point avec Solange Niamoulissa.
Ami Kolé Dieng, chanteuse populaire, a été interpellée le 3 août à Dakar. Dans un enregistrement sonore partagé sur WhatsApp, elle accusait le chef de l'État Macky Sall de manœuvrer en coulisses pour accomplir ses desseins et d'être un saï-saï, un mot wolof qui signifie coquin. Elle lui reprochait également de n'avoir rien fait dans le pays depuis son élection en 2012 et d'avoir volé les législatives du 30 juillet. Elle dénonçait aussi la gestion du scrutin, marquée par de grands problèmes d'organisation. Ses propos ont été largement diffusés par des sites d'information sénégalais. Après son interpellation, Ami Kolé Dieng a affirmé que ses critiques n'étaient pas destinées à être rendues publiques. Un de ses avocats, Maître Boubacar Barrow, a déclaré qu'après 5 jours de garde à vue, elle a été inculpée et placée sous mandat de dépôt. Amadou Sek, l'administrateur de ces groupes sur WhatsApp, a également été placé en détention provisoire pour les mêmes chefs d'inculpation. Les 2 inculpés risquent de 6 mois à 2 ans de prison pour offense au chef de l'État et jusqu'à 3 ans de réclusion pour diffusion de fausses nouvelles.
La France fera des propositions à la fin de l'été sur l'ouverture au Niger et au Tchad des centres d'examen pour les candidats à l'asile, a déclaré ce mercredi Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères. L'objectif de ces centres est d'assurer la protection des demandeurs d'asile, éviter les drames méditerranéens et aussi lutter contre les passeurs, a fait savoir M. Le Drian. Toutefois, a-t-il admis, la vraie seule réponse pour lutter contre ces flux migratoires, c'est d'avoir une sécurité en Libye. La presse sud-africaine estime que l'échec de la motion de défiance contre le président Jacob Zuma n'est qu'une courte victoire pour le chef de l'État. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Il n'a manqué que 24 voix sur 400 pour que la motion de défiance soit adoptée. Avec le vote à bulletin secret, l'opposition a bénéficié du soutien d'une trentaine de députés de l'ANC. 4 motions de défiance ont déjà visé le président sud-africain depuis 2015. C'est la première fois que Jacob Zuma s'en sort avec une si faible marge. Après leur échec au Parlement, les opposants comptent désormais sur la justice pour faire tomber Jacob Zuma. Le président est sous la menace de la réouverture de 783 charges de corruption dans une affaire de contrat d'armement. L'ANC doit élire en décembre son nouveau président. Parmi les favoris, Nkosazana Dlamini Zuma, ex-patronne de l'Union africaine et ancienne épouse du chef de l'État, et Cyril Ramaphosa, actuel vice-président. Le parti au pouvoir a enregistré l'an dernier un score historiquement bas, moins de 54% aux élections municipales. Il a aussi perdu le contrôle de plusieurs grandes villes, dont Johannesburg et la capitale, Pretoria.
La famine menace plus de 20 millions de personnes au Yémen, en Somalie, au Soudan du Sud et dans le nord-est du Nigeria, a mis en garde mercredi dans une déclaration le Conseil de sécurité des Nations Unies qui lie pour la première fois les conflits à ce fléau.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
C'est l'escalade verbale entre les États-Unis et la Corée du Nord après avoir promis le feu et la colère à Pyongyang. Le président américain réitère ses mises en garde en réponse aux tirs de missiles susceptibles de transporter des armes atomiques. Morgan Guiriek nous en dit plus.
L'arsenal nucléaire américain est plus fort et plus puissant que jamais, avertit Donald Trump. Espérons que nous n'ayons jamais à utiliser cette puissance, mais nous serons toujours la nation la plus puissante du monde, a déclaré le président américain sur Twitter. Il répondait à la Corée du Nord qui menace le territoire américain de Guam, une île stratégique sur la route de l'Asie. La Chine appelle à éviter les paroles et actions susceptibles d'accroître la tension dans la péninsule coréenne. Pékin invite les deux adversaires à chercher une résolution pacifique. Principal allié du régime de Kim Jong-un, la Chine a tout de même approuvé un 7e volet de sanctions économiques contre la Corée du Nord. De son côté, Paris appuie la position de Washington, estimant que Donald Trump fait preuve d'une détermination à l'écart de la Corée du Nord que tous les présidents américains auraient eue.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé mercredi soir à Tel Aviv qu'une campagne de la gauche et de la presse visait à le renverser par un push lors d'un meeting de soutien organisé par son parti, le Likoud, sur fond d'enquête judiciaire contre lui. Plus de 3000 militants, selon les organisateurs, ont scandé « Bibi », le surnom de M. Netanyahou, à plusieurs reprises durant son discours. La pression judiciaire s'est considérablement accentuée vendredi sur le Premier ministre, avec l'annonce qu'un de ses anciens proches collaborateurs avait été accepté de coopérer avec la justice. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ce journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eki Abadou.
C'est l'ouverture à Lomé du 16e forum AGOA, la loi américaine sur la croissance et les opportunités économiques en Afrique. Le représentant du département américain du commerce, Robert Lighthizer, a annoncé l'octroi du visa textile au Togo. Le textile et les produits à base du textile peuvent désormais être exportés du Togo vers le marché américain en bénéficiant de l'exonération des droits de douane. Ce n'est pas un visa sans contrôle, a rappelé Brian Neubert du département d'État, qui précise qu'il y a des normes pour la régulation des ouvriers que doivent respecter les entrepreneurs. Un rapport publié par la think tank L'Afrique des idées expose les bienfaits du mobile monnaie capable de réduire de moitié le manque à gagner des pays de l'Afrique de l'Ouest dans le domaine fiscal. En effet, l'une des spécificités du mobile monnaie est de réduire les effets sur le secteur informel en rendant visibles les flux financiers en monnaie électronique. Après avoir connu une croissance fulgurante, la marque Etisalat, filiale nigérienne du géant Emirati, a été reprise par un consortium de 13 banques et renommée 9 mobiles. En 2011, Etisalat comptait 12 millions de clients, devenant ainsi le 4e opérateur sur le marché nigérian.
Une musique qui ne trompe pas, Nicolas Pinot est dans ce studio et c'est pour nous parler de sport. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir John, bonsoir à tous.
On commence par l'Afrique qui est encore à l'honneur aux mondiaux d'athlétisme à Londres.
Oui, en effet, le Kenya est deuxième avec 3 médailles d'or au classement des médailles de ces championnats du monde d'athlétisme. L'Afrique du Sud désormais troisième avec 2 médailles d'or et les Américains premiers avec 11 médailles. Nouveau feu d'artifice hier soir pour les Kenyans. Conseslus Kipruto a remporté la finale du 3000 mètres steeple à Londres en 8 minutes 14 secondes et 12 centièmes. Champion olympique en titre, le Kenyan a remporté 7 épreuves devant le Marocain Soufiane El Bakali et l'Américain Evan Jagger. Et puis sur 400 mètres, c'était attendu, le champion olympique sud-africain Van Niekerk a répondu présent. Il s'impose en 43 secondes et 98 centièmes. A noter que l'Ivoirienne Marie-Josée Talou a remporté hier sa série du 200 mètres en 22 secondes 70. À suivre ce mercredi, les demi-finales hommes du 200 mètres. Wilfried Kofi Ua pour la Côte d'Ivoire, Van Niekerk pour l'Afrique du Sud et Sine Siamé pour la Zambie sont en piste.
Le Botswanais Isaac Makwala autorisé à reprendre la compétition.
Le Botswanais, initialement pas autorisé à courir les séries du 200 mètres puis la finale du 400 mètres en raison d'une gastro-entérite, eh bien il pourra finalement disputer le 200 mètres. C'est ce qu'indique la Fédération internationale d'athlétisme. On rappelle que Makwala détient la meilleure performance mondiale cette saison en 19 secondes 77 sur le demi-tour de piste.
Sanchez restera bien à Arsenal selon son entraîneur Nicolas.
Oui, le manager d'Arsenal, Arsène Wenger, a déclaré qu'il n'existait aucun contact avec le Paris Saint-Germain concernant Alexis Sanchez, qui manquera le début de saison pour blessure. Sanchez, 28 ans, a été annoncé à plusieurs reprises du côté du Paris Saint-Germain, qui vient finalement d'acheter pour une somme record le Brésilien Neymar au FC Barcelone. Sanchez, qui a également été annoncé à Manchester City, n'a pas joué avec Arsenal lors de la pré-saison en raison de vacances prolongées accordées après sa participation à la Coupe des Confédérations.
Le FC Barcelone n'a toujours pas donné sa lettre de sortie pour Neymar.
Oui, le joueur brésilien qui ne peut donc toujours pas jouer avec le Paris Saint-Germain en championnat. Les dirigeants du FC Barcelone semblent décider à faire traîner les choses. Théoriquement, ils ont jusqu'au 18 août pour autoriser la fédération à délivrer le bon de sortie.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Cap à présent au dossier du jour. Au Kenya, au lendemain des élections, deux personnes ont été tuées à Matare, un bidonville de Nairobi où la commission électorale a publié les résultats après dépouillement de 96% des bureaux de vote. Il crédite le président Uhuru Kenyatta de 54,36% des suffrages contre 44,76 pour son rival Raila Odinga. Mais le candidat de l'opposition, M. Odinga, a dénoncé une fraude monumentale. Eric Manirakiza a joint sur place Benoît Hazard, chercheur auprès du Centre national de recherche scientifique.
Pour le moment, la victoire annoncée de Uhuru Kenyatta est assez difficile à expliquer, je dirais. Dans le même temps, beaucoup de questions se posent. D'une part, il y a un certain nombre de bureaux de vote dans le pays où en fait on ne trouve pas les mêmes résultats dans le dépouillement local qui a été fait dans les bureaux de vote et les résultats qui ont été transmis par voie électronique à Nairobi. Donc un certain nombre de questions subsistent et pour le moment il est vrai que l'IBC n'a pas donné de commentaires sur les allégations qui sont portées par l'opposition quant à la fiabilité des résultats qui ont été annoncés. Donc on reste dans une zone d'ombre, même si il est possible que au finish, Uhuru Kenyatta emporte ces élections, qui m'interroge un petit peu parce que ça correspond pas vraiment aux dynamiques électorales que j'ai pu observer sur le terrain.
Justement, les premières contestations ont déjà provoqué des tensions avec deux morts, notamment à Nairobi. Est-ce que vous pensez que c'est une situation qui peut dégénérer?
Elle est vraiment explosive, non pas, je dirais, sur les bases qui étaient celles de 2007-2008, où en fait on a eu des affrontements sur des bases interethniques. Là, c'est vraiment sur des bases politiques. Alors bien sûr, Raila Odinga comme Uhuru Kenyatta sont deux big men de la politique kenyane. Leur père eux-mêmes étaient très impliqués dans la politique kenyane et ont gouverné le pays. Mais cela étant, aujourd'hui, il y a un vrai désir d'alternance au Kenya, un désir d'alternance qui se fonde aussi sur des débats qui sont fondamentalement politiques. Pour les territoires, par exemple, dans lesquels je travaille, dans le comté de Narok, les Maasai, qui avaient voté aux dernières élections pour Uhuru Kenyatta, massivement la semaine dernière et à travers leur leader, s'étaient ralliés au camp de l'ODM et à Raila Odinga et ODM, le NASA, pardon, précisément parce qu'ils estiment que au cours de la dernière présidentielle, on leur a volé leurs terres. Les gens, aujourd'hui, c'est l'outil démocratique qui est en cause. C'est pas la problématique de la reconnaissance de l'ethnicité de tel ou tel groupe. Il y a un certain nombre de Kikuyu, d'ailleurs, qui ont voté pour le NASA, j'en connais. Le vote sur des bases ethniques existe toujours, mais on n'est plus l'élément structurant du débat politique kényan aujourd'hui.
Et qu'est-ce qui peut empêcher un dérapage à grande échelle?
C'est difficile de le dire que la ABC, qui a été mise en cause du fait de l'assassinat de Chris Omsando, joue du plus profond la transparence. Tout le problème, c'est le problème de la représentativité de la classe politique kenyane.
Benoît Hazard du Centre national de recherche scientifique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur le forum de l'AGOA qui se tient cette semaine à Lomé. L'AGOA, c'est cette loi américaine sur la croissance et les opportunités de développement en Afrique. Quelle importance revêt-elle dans les relations commerciales américano-africaines? Qui en tire vraiment profit? Pourquoi fait-elle toujours l'objet de critiques? Des changements sont-ils prévus sous la nouvelle administration américaine? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
Le 16e sommet de l'AGOA qui se poursuit justement à Lomé au Togo où plus de 1000 représentants des 38 pays subsahariens, d'institutions internationales et de sociétés américaines sont réunis pour développer le commerce entre les États-Unis et le continent. Claire Morin-Gibour a joint sur place le Togolais Olowunjo Chala. Sa société Alafia est basée au Togo et aux États-Unis.
On fait partie du forum d'AGOA dans le secteur privé. Précisément, pourquoi la FIER participe, c'est à cause du modèle simple qui crée le boulot, qui crée l'emploi en Amérique. Et c'est le modèle qui crée le boulot et l'emploi en Afrique en général. Et le plus important de le modèle, ça tient compte de les plus pauvres, les plus vulnérables et les femmes. Donc, c'est de comment utiliser les procédures, les méthodes de technologie traditionnelles que l'Afrique a en fabriquant les produits naturels, disons comme le beurre de karité. Et comme vous le savez, dans le marché américain, les Américains veulent les produits naturels. Donc, pour Alafia, c'est de prendre ce que le Togo peut faire et amener aux États-Unis. Et les Américains, maintenant, peuvent continuer à transformer ça en emballage et le distribuer dans l'étendue américain. Et à la fin, il faut ramener les sous qui viennent de la vente pour investir dans des activités sociales. Ça veut dire quoi? L'éducation construire les écoles, la maternité, que nos mamans sont en bon état, et l'environnement pour planter les plantes. C'est un modèle de l'entrepreneur social. C'est un modèle capitaliste, mais avec la moralité qui l'accompagne.
Pourquoi les accords de l'AGOA sont importants et en quoi ils vous permettent de développer votre société donc, qui est basée au Togo et aux États-Unis?
Mais l'AGOA est très important. Ça peut être en amenant les produits qui viennent de l'Afrique en général. En ce moment, ça ouvre les portes en Amérique et on paie moins sur les impôts en rentrant en Amérique. Cela veut dire que l'investissement d'un entrepreneur comme moi, ce n'est pas besoin de beaucoup de sous pour commencer et qui fait engager quelqu'un d'autre et ça crée le boulot. Et en même temps, ça donne l'accès aux entrepreneurs américains d'acheter les produits togolais. Parce que maintenant, le prix fait du sens. Et les consommateurs américains ne sont pas obligés à payer les prix les plus hauts. Mais en même temps, les gens à la base qui fabriquent les produits aussi sont payés. Donc, moi, je trouve qu'avec AGOA, tout le monde gagne. Et le plus important, les lois sont claires entre le gouvernement. Donc, il n'y a pas d'abus. Tu ne peux pas faire des abus, des esclavages dans les usines, tout ça. Et puis, c'est très important. Et ça, c'est le droit de l'homme. Et moi, je trouve qu'avec ça, ça permet les affaires quand il y a le droit de l'homme.
Olo Njo Chala, fondateur d'Alafia, une société de produits de beauté. Au Cameroun, la colère est dans les rangs des vendeurs ambulants du marché Mokolo à Yaoundé, le plus fréquenté de la capitale camerounaise. L'inauguration d'un nouvel espace commercial qui leur est dédié y a plutôt engendré des problèmes. En effet, passé l'euphorie de l'inauguration des locaux le 27 juillet dernier, le désarroi et la colère sont aujourd'hui perceptibles dans ce marché, comme a pu le constater notre correspondant au Cameroun, Emmanuel Juntap.
Il se dit officiellement ici que les places ont été attribuées aux vendeurs ambulants. Ceux du marché Mokolo crient à la mafia.
Les gens sont quittés du quartier pour venir payer les comptoirs des sauveteurs.
Nous avons été recensés, mais à la grande surprise, quand les travaux commencent et qu'on doit recaser, on se rend compte que les vendeurs à la sauvette n'ont pas été imprégnés de la chose.
Rien n'a donc changé jusqu'ici au marché Mokolo. L'engorgement de trottoirs est toujours effectif. La principale voie qui dessert le nouveau site des vendeurs ambulants fait encore office d'étalage. Résistance au boycott du nouveau site, les langues se délient, côté commerçant, jusqu'ici sans emplacement dans le nouvel espace commercial.
Tu as une marchandise peut-être de 100 000, 50 000. Tu vas prendre un comptoir à 400 000 pour aller investir quoi là sur ça.
Et ils m'ont taxé 600 000. Dès que je peux donner 600 000, ma condition qu'on me fasse le reçu pour le comptoir. Ils m'ont dit que si je veux le reçu avant d'avoir le comptoir, ils ne peuvent pas me donner le comptoir.
Donc c'est un business qui sont en train de gérer entre eux.
Même ceux qui ont intégré le nouveau site sont noirs de colère, à l'instar de ces couturiers.
Nous sommes les premiers à payer les places ici-là. Et on se trouve loin derrière. Là où ceux qui ont payé les places derrière nous, là, ils ont les clients là-bas. Nous sommes très mal à l'aise.
Je ne vois pas là-bas tout le monde en train de venir. Parce que là-bas, on nous a dit qu'en janvier, tout le monde devait venir. Nous quittons là-bas en août. Personne n'est venu. Donc c'est pas ici que tout le monde va venir.
Pourtant, l'espace réservé aux petits commerçants du marché Mokolo a sorti cet emplacement d'un registre noir. Oumarou Mbombou, président de l'association des vendeurs à la sauvette du Cameroun.
Le site autrefois avec des vieilles maisons, ça servait aussi de cachette aux pickpockets quand ils arrachaient
en route, il fuyait, il se cachait à cet endroit. C'est comme ça comment le délégué du gouvernement constate, donc maintenant que ça crée trop de l'insécurité, il a décidé de nettoyer et rendre ça d'utilité publique. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la sécurité y règne déjà.
Reste que la polémique s'enfle et fait des vagues sur l'attribution de comptoirs et boutiques dans un espace initialement dédié aux vendeurs ambulants du marché Mokolo. Gilbert Timievuna, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, explique.
Les vendeurs, la semaine, c'est des partenaires. Le marché de Mokolo est le fruit d'un partenariat entre la communauté urbaine et le privé. Donc, la communauté urbaine apporte le terrain, le particulier apporte les moyens financiers. Il construit, il gère pendant 25 ans. Ça lui permet de rentrer dans ses coûts et de faire ses bénéfices. Et après, les structures reviendront à la communauté urbaine.
Emmanuel Juntap, Yaoundé, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Pèlerinage à la Mecque. Chaque année, des centaines de milliers de musulmans du monde entier se rencontrent en Terre Sainte afin d'accomplir le Hajj, un des piliers de l'islam. Notre correspondant Siriki Barreau nous parle ici de l'étape de Médine où il s'est entretenu avec des pèlerins ivoiriens et maliens.
L'aéroport international Ibn Abdulaziz ne désemplit plus. Un balai incessant d'avions atterrissent avec à bord des pèlerins venus de tout le monde entier. Voyage épuisant certes, mais très exaltant, comme le confessent ces pèlerins venus de divers horizons à qui nous avons tendu notre micro.
Je suis Jarasouba Diakaridia de Pougon et le parcours, je l'ai passé franchement avec beaucoup d'appréhension alors que ça s'est bien passé. Au départ, je m'inquiétais, mais je suis déjà là.
Malamine Haïdra, je suis de Bamako, des quartiers de Ravel. Là, vraiment, nous avons accueilli vraiment dans les bonnes conditions, franchement dit.
Après les formalités de l'aéroport, le logement est la préoccupation majeure des pèlerins. Les autorités de plusieurs États ouest-africains, tels que la Côte d'Ivoire et le Mali, s'investissent afin de garantir à leurs ressortissants les meilleures conditions d'hébergement. Car l'un des défis majeurs consiste à trouver des logements autour de la mosquée Al-Haram.
Lieutenant-colonel Fofana Mamadou Norosote Ousmane. Voilà, le voyage s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous sommes arrivés et maintenant nous sommes à l'hôtel cherchant à nous faire loger. Le cadre est très beau. J'ai pu lorgner du côté de la mosquée du prophète. Ça augmente ma foi.
Moustapha Sivi. Je viens du Mali, dans le cercle de Kita. Depuis qu'on est venu ici, tout va bien. On n'est pas loin de la mosquée. Alhamdoulilah. Tout ce qu'on veut voir ici, presque on a tout vu. Nos dirigeants nous dirigent dans les bonnes conditions.
Pour l'étape de Médine, les communautés ivoiriennes et maliennes disent être satisfaites.
Bané Abdullah, je suis satisfait, tout est bien, l'organisation, tout l'accueil, bon, tout est bien.
Yaya Traoré, de Sigasso. Bon, effectivement, on a bien arrivé, on a bien hébergé aussi. Bon, il n'y a pas aucun problème. Bon, notre logement et la mosquée, c'est pas loin. Quelque part seulement, bon, on peut arriver à la mosquée facilement. Depuis qu'on est arrivé, on peut faire les 5 prières régulièrement. Effectivement, on est à l'aise.
La vie de Médine ne fait pas partie des rituels du Hajj. C'est surtout une étape consacrée à la visite des lieux saints tels que la mosquée Al-Haram, la mosquée où repose le prophète de l'islam et certains de ses fidèles compagnons. Siriki Barreau, Médine pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans Arab Show à 20h, temps universel. Au menu, international music, la musique internationale de partout. Comédie, country music. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition du Monde Aujourd'hui, mise en onde par Ivy Djeya sous la supervision de Georges Léonard Sagno. Chiang Wang était à la console. Présentation John Lyndon. Merci pour votre fidélité au programme de VOA Afrique. L'actualité en continu, c'est sur la page Facebook de VOA Afrique et sur voafrique.com. Excellente soirée à toutes et à tous.